Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant à Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Donc on a vu le mot connaître, je vous en ai parlé il y a quelques instants, le mot former, qui est le mot pour acheter, acquérir, etc. Donc il est traduit différemment suivant les versions que vous pouvez avoir de la Bible, mais on comprend bien le sens. Hein. Donc Adam et Ève ont eu des relations et voilà, un bébé est né. Alors on peut se mettre un petit peu à la place de Adam et Ève lorsque ce petit bébé a commencé à prendre vie dans le ventre de Ève et quand il est né. L'émerveillement que devait avoir Ève et Adam devant ce petit bébé à l'image, créé à l'image de Dieu. Et je voudrais un petit peu revenir en arrière à ce niveau-là pour resituer ça dans un contexte parce que on peut avoir des idées, des a priori qui sont un petit peu faussées par rapport à ce qu'on lit dans le texte. C'est vrai que Adam avait désobéi, on avait parlé de ça longuement. Il y avait un châtiment qui, je pense, était accepté par Adam et Ève. On en a parlé. Des fois, le départ d'Adam et Ève du jardin d'Éden, on voit des personnes qui partent. Ils sont représentés complètement abattus, tristes, ils s'en vont, ils sont des losers, hein, des perdants qui quittent, qui sont chassés du jardin d'Éden. C'est une image qui, je pense, n'est pas juste. Elle ne correspond pas à la façon dont nous lisons le texte par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, comment Adam a donné un nom à sa femme, etc. Il y a une autre image qu'on pourrait avoir également d'un Adam et Ève qui sortent du jardin avec de la fierté où voilà, on est chassé mais ça fait rien, nous sommes les capitaines de nos âmes, on va s'en sortir tout seul, même si Dieu nous chasse, bien, on va se débrouiller. Et c'est peut-être un petit peu l'image, une autre image qui est fausse. Je pense que c'est ni l'une ni l'autre de ces images-là. Je voudrais, par rapport à l'état d'esprit dans lequel pouvaient être Adam et Ève, lire un passage dans le livre des Hébreux par rapport au châtiment que Dieu donne. Hébreux chapitre 12, verset 10, je vous fais la lecture dans la parole de vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse, mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Trouvent ainsi la paix. Alors, après la désobéissance, l'obéissance, hein, vous vous souvenez de Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Voilà, soyez féconds, multipliez. Ah ben, en quelque sorte, Adam et Ève vont être obéissants et puis ils vont se mettre au travail, si on peut dire, hein, avec humour. Et donc, voilà l'arrivée du premier bébé. Alors, je vous l'ai dit, la Bible est très pudique en ce qui concerne les relations sexuelles, mais il n'empêche qu'elle associe souvent les deux. Hein. Alors il y a le mot connaître, où on trouve aussi également l'expression aller vers. Je vous lis quelques passages que l'on trouve dans la parole de Dieu. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Ça c'est 4:17, plus loin. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Ça c'est plus tard, et encore plus tard, on retrouve l'histoire de Anne et de Samuel. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils. Boaz, dans le livre de Ruth, Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Alors on voit à travers ces expressions, la parole de Dieu met un lien, en tout cas, entre la sexualité et l'arrivée des enfants. Ou on peut voir un lien à l'inverse, c'est à l'arrivée des enfants avec la sexualité. Donc les enfants, ils arrivent suite à des relations sexuelles. Et on voit les mots qu'utilise la parole de Dieu pour parler de ça, donc de façon très pudique, mais elle souligne cette relation de cause à effet. C'est pas du tout utilisé dans le langage courant, on n'utilise pas du tout cette façon de faire. Hein. Si je parle de Fallon avec Jackie, je dis nous avons une fille qui s'appelle Fallon. On ne dit pas ben, j'ai connu Jackie et nous avons Fallon qui est né. On ne le dit pas comme ça. On pourrait le dire, mais c'est la façon dont la Bible en parle. Hein. C'est la façon dont la Bible en parle. Alors, il y a peut-être deux écueils à éviter par rapport à cette association que nous venons de voir ici dans notre texte. On pourrait dire que la sexualité n'entre que dans le cadre de la procréation, c'est-à-dire les relations sexuelles, c'était uniquement pour avoir des enfants. C'est pas tout à fait ce qu'enseigne la Bible. Il y a un livre entier qui s'appelle le Cantique des Cantiques et qui parle de façon très imagée, très poétique, des relations amoureuses entre un homme et une femme. Et il n'est pas du tout question d'avoir des enfants là-dedans. Donc ce serait une erreur de dire que la sexualité, c'est uniquement dans le cadre pour avoir des enfants. Et l'autre erreur, ce serait de dire que la sexualité est une fin en soi. Non, les enfants viennent après les relations sexuelles. Il y a un lien de cause à effet. Et c'est quelque chose qui est assez naturel. On le voit comme quelque chose de naturel. Autre chose qu'on peut souligner par rapport à notre texte, c'est le contexte dans lequel il est. Il est important quand même de remarquer que la sexualité n'est pas le résultat de la chute. Ce n'est pas une conséquence de la chute. Dès l'origine, on l'a vu dans notre texte tout à l'heure de Genèse chapitre 1, ben Dieu avait prévu que les hommes se multiplieraient et qu'ils rempliraient la terre. Il n'y a rien qui dit dans notre texte non plus que Adam et Ève, que Adam n'ait pas connu Ève avant la chute. Il n'y a rien qui nous permette de le dire ni d'une chose ni d'une autre. Ce qui est certain, c'est que c'est un don de Dieu par lequel nous allons pouvoir avoir un autre don, les enfants. Je vais faire une lecture de 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 5 maintenant. C'est un texte qui est bien connu également. L'Esprit Saint dit clairement, dans les derniers temps, je lis dans Parole de vie, certains abandonneront la foi. Ils suivront des idées fausses, des enseignements qui viennent d'esprits mauvais. Des gens faux, menteurs, les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur, comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage. Ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc en manger en lui disant merci. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. En effet, la parole de Dieu et la prière font que toute chose devienne agréable à Dieu. Voilà, un petit peu l'autre contexte, contexte des aliments et contexte là de certaines personnes qui empêchaient le mariage, qui empêchaient donc en quelque sorte les relations sexuelles. Et l'apôtre Paul dit, ce sont là des idées fausses, des enseignements qui viennent des esprits mauvais. Qui viennent des esprits mauvais. La sexualité n'est pas une mauvaise chose. Dans l'image populaire, si vous voyez des tableaux, etc., on voit que le fruit défendu, donc, c'est la pomme, et qu'on fait l'association avec la pomme et la découverte de la sexualité qui vient plus tard. La sexualité est une chose créée par Dieu, bonne, agréable, et on voit un petit peu par cette usurpation que Satan fait de cette belle chose, comme si la sexualité c'était quelque chose qui était empêché par Dieu quand il était dans le jardin d'Éden. Et voilà, donc la femme va prendre du fruit interdit, elle va en manger, et ensuite ce fruit interdit, en quelque sorte, va l'ouvrir vers la sexualité. Et de cette façon-là, Satan s'approprie pour lui-même ce que Dieu avait créé, qui était bon pour nous. Il l'usurpe cette chose pour la détourner le cadre dans lequel Dieu l'avait créé. Troisième point que je voudrais souligner avec vous sur ce thème, on n'en parle pas souvent, c'était l'occasion de le faire. Jésus a-t-il connu une femme? C'est une question qui peut vous paraître surprenante, mais ce n'est pas clair dans l'esprit de nos contemporains au XXIe siècle. Ce n'est pas clair du tout. Et c'est bon de savoir, pouvoir avoir quelques arguments quand même pour pouvoir donner des réponses, parce que peut-être vous avez déjà été confronté à cela. Dans l'esprit de beaucoup de gens, Jésus, il a fait comme les autres hommes du XXIe siècle. Il ne transpose pas l'histoire de Jésus dans le contexte juif du premier siècle. Il faut rappeler et affirmer fort que les évangiles ne présentent pas du tout Jésus comme un homme marié. C'est très très clair, s'il avait été marié, on le saurait. On est dans un contexte juif, un contexte juif pieux, assez légal, et tout ce qu'on est dans notre contexte du XXIe siècle, où la sexualité est placée comme très très haut, comme quelque chose qui est pour beaucoup le seul objectif, le seul centre auquel tourne leur vie. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Il est important de noter également, lorsque dans son faux procès, Jésus n'a jamais été accusé d'avoir eu des relations hors mariage. Si ça avait été le cas, les accusateurs de Jésus se seraient saisis de ça immédiatement pour le discréditer auprès de la foule et auprès de ses disciples. Rien n'a été trouvé en lui sur ce point-là. S'il y avait eu la moindre chose, ses adversaires se seraient saisis de la chose. Et pour parler de Marie de Magdala, c'est là-dessus qu'il y a des histoires, vous savez, des romans qui ont été écrits, et patati tatata. Quand on regarde le texte, quand elle rencontre Jésus-Christ ressuscité, elle se voit, s'adresse à une personne qu'elle croit être le jardinier. Et quand ce jardinier qui est Jésus l'appelle par son nom, Marie, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne. Elle se retourne et elle dit « Rabouni ». Elle tourne le dos à Jésus-Christ. Donc, ça ne correspond pas du tout à une réaction qu'aurait à une personne si elle avait eu, il y avait eu une quelconque relation entre les deux qui soit différente des autres personnes qui entouraient Jésus. Et enfin, Jésus était un agneau consacré. Donc, de ce côté-là, sa consécration était complète et totale. Donc, on peut affirmer, sans se tromper, que Jésus n'a jamais connu de femme. Que Jésus n'a jamais connu de femme. Qu'en est-il avec notre 21e siècle? Alors, vous savez que la sexualité, depuis qu'il y a les méthodes contraceptives qui ont évolué, elle est placée au centre, c'est comme un dieu, hein, presque. Hein. C'est pour notre société du 21e siècle, les relations sexuelles sont presque, on peut dire, encouragées, même le plus tôt possible. Il y a des choses qui sont mises en place pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions, et on essaye de prolonger ça le plus tard possible également. La sexualité au 21e siècle est déconnectée des enfants. C'est une chose, les relations sexuelles et les enfants, c'est deux choses qui sont déconnectées. On a déconnecté ce lien qu'a établi si bien la parole de Dieu et qu'on a souligné. Et maintenant, on avance vers une société qui déconnecte les enfants de la sexualité. Avoir des enfants sans avoir ce moment de communion entre l'homme et la femme que constituent les relations sexuelles. La Bible ne présente pas la sexualité comme un objectif majeur. On le voit, on est arrivé au chapitre 4, on n'en avait pas du tout causé jusqu'à présent, et là, furtivement, dans un verset, on la voit apparaître, et on la verra apparaître de temps en temps, comme ça, en pointillé, mais c'est vraiment pas une priorité pour la parole de Dieu. Alors, on trouve très peu de conseils sur ce sujet, et lorsque l'on trouve des informations, c'est de façon très poétique, très imagée. J'ai cité le Cantique des Cantiques, un livre entier consacré de près ou de loin sur ce sujet-là, mais de façon très, 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 très poétique, très imagée. J'ai prévu ce matin pour nous de faire la lecture de Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 20. Alors, on ne va pas prendre le temps de lire ce texte pour avoir une petite idée de ce que les bons conseils que l'on trouve dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes. Je lis toujours dans la même version. Donc, c'est un fils qui s'adresse à son père, c'est Dieu qui s'adresse à nous dans ce texte. Proverbe chapitre 5, verset 15. Ta femme est comme l'eau de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Ne laisse pas ta source couler au dehors, sur la place du marché. Garde-la pour toi seul, ne la partage pas avec des étrangers. Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle, rends-la heureuse. Que son corps te remplisse toujours de joie, sois toujours fou d'amour. Mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre, embrasser le sein d'une inconnue? Oui, l'Éternel voit la conduite des humains, il voit chacun de leurs actes. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes. Mais, et elles le retiennent comme un piège. Il mourra par manque d'éducation. Son immense folie le perdra. Donc on voit un petit peu à travers ces passages poétiques combien la chose est envisagée de façon exclusive, de façon intime, de façon pudique. C'est les relations entre un homme et une femme ne concernent que. C'est un jardin privé, on pourrait dire, hein, et quelque chose qu'il faut découvrir à deux. Et donc le fruit de tout ceci, dans le plan de Dieu, dans le plan de la création de Dieu, c'est l'arrivée d'enfants à les former à l'image de Dieu. Alors j'arrêterai là ce matin sur ce sujet. Je vous invite à vous souvenir de deux choses: que la sexualité comme les enfants sont des dons de Dieu, et on a vu l'apôtre Paul qui nous encourageait à rendre grâce pour toutes choses, à dire merci pour toutes choses. Et enfin, un point assez important, que Jésus est resté vierge. Jésus est resté vierge. Il n'a pas connu cela. Donc, c'est pas peut-être pas tout le monde qui aura l'occasion dans sa vie de connaître, d'avoir des relations sexuelles. Mais la parole de Dieu, à travers l'exemple de Jésus, offre une puissante consolation. Ce n'est pas le centre de notre univers, hein. Ce n'est pas quelque chose de top prioritaire. Voilà, on va prier maintenant. Notre Père Céleste, merci pour l'occasion que nous avions ce matin à travers ce verset de parler de cette chose que l'on ne parle pas souvent à l'Église, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, et pourtant c'est la préoccupation de beaucoup de nos concitoyens et peut-être aussi notre préoccupation à nous. Seigneur, merci de l'occasion qui nous est donnée de le faire ce matin. Merci pour ta parole qui nous donne des repères sûrs, et Seigneur, de bons conseils, comme on a lu dans le livre des Proverbes. Aide-nous, Seigneur, à utiliser ce que tu nous as donné avec sagesse et conformément à ce que tu as prévu pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur. Merci, Seigneur, parce que tu nous instruis jour après jour. Garde-nous, Seigneur, bénis notre assemblée. On n'était pas très nombreux ce matin, Seigneur, et te prions d'étendre ta main pour que nous ayons la joie de nous retrouver au complet de ces dimanches, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.